Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption du gouvernement, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient respectés. Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. 14. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. 17. Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Observation sur la Déclaration des droits de l'homme. Les trois premiers articles comprennent en termes généraux toute une déclaration de droits. Tous les articles suivants en tirent leur origine ou ne sont que des explications. Le 4e, 5e et 6e définissent plus particulièrement ce qui n'est que généralement exprimé dans le 1er, le 2 et le 3e. Le 7e, 8e, 9e, 10e et 11e sont des déclarations de principe sur lesquelles les lois doivent être faites conformément aux droits déjà déclarés. Mais il y a de très honnêtes gens, tant en France que dans les autres pays, qui doutent que le 10e article garantisse suffisamment le droit qu'il a dessein d'accorder, et qui disent qu'outre cela, c'est ôter quelque chose à la dignité divine de la religion et affaiblir sa force efficiente que de la rendre un sujet des lois humaines. La religion se présente alors à l'homme comme la lumière interceptée par un nuage intermédiaire qui lui en obscurcit la vue, et il n'aperçoit rien digne de référence dans la sombre raie. Les articles suivants, en commençant par le 12e, sont substantiellement contenus dans les principes des articles précédents. Mais la situation particulière où se trouvait la France, ayant à détruire ce qui était mauvais, aussi bien qu'à élever ce qui était bon, il était à propos d'être plus exact qu'il n'aurait été nécessaire de l'être dans une autre position. Tandis que la Déclaration des droits était en agitation à l'Assemblée nationale, quelques-uns de ses membres remarquèrent que si on publiait une déclaration de droits, il fallait qu'elle fût accompagnée d'une déclaration de devoirs. Cette observation annonce de la réflexion. Il n'errait cependant que parce qu'il ne réfléchissait pas assez profondément. Une déclaration de droit est aussi une déclaration de devoir réciproque. Ce qui est mon droit comme homme est également le droit d'un autre homme, et il est de mon devoir de lui garantir le sien comme de posséder le mien. Les trois premiers articles sont les bases de la liberté tant individuelle que nationale. Aucun pays dont le gouvernement ne tire pas son origine des principes qu'ils contiennent et ne continue pas d'en conserver la pureté ne saurait être appelé libre. Et la Déclaration des droits est d'une plus grande valeur pour le monde entier et fera plus de bien que toutes les lois et tous les statuts publiés jusqu'à ce jour. Dans l'exorde déclaratoire qui précède la Déclaration des droits, on voit le spectacle solennel et majestueux d'une nation ouvrant sa commission sous les auspices de son Créateur pour établir un gouvernement. Scène si nouvelle et si élevée au-dessus de ce que l'on a encore vu dans cette partie du monde, que le nom de révolution n'approche point de la dignité de son caractère. Elle s'élève jusqu'à celui de la régénération de l'homme. Que sont les gouvernements de l'Europe, sinon des scènes d'iniquité et d'oppression? Quel est celui d'Angleterre? Ne disent-ils pas eux-mêmes que c'est un marché où chacun a son prix et où la corruption est un trafic continuel fait aux dépens d'un peuple trompé? Il n'est donc pas surprenant que l'on calomnie la Révolution française. Si elle était simplement bornée à la destruction d'un despotisme monstrueux, peut-être que M. Burke et quelques autres auraient gardé le silence. Leur cri présent est qu'elle est allée trop loin. C'est-à-dire qu'elle est allée trop loin pour eux. Elle ose regarder la corruption en face. La horde vénale est alarmée, ses craintes se manifestent dans ses outrages, et elle ne sait que publier les gémissements du vice blessé. Mais une pareille opposition, au lieu de nuire à la Révolution française, ne peut que lui faire honneur. Plus on la frappera, plus il en sortira de lumière. Et il y a plutôt à craindre qu'on ne la frappe pas assez. Elle n'a rien à appréhender des attaques. Elle est établie sur la vérité, et son nom sera aussi durable que le temps. Après avoir examiné les progrès de la Révolution française dans tous ses principaux incidents, depuis son commencement jusqu'à la prise de la Bastille, et de son établissement par la Déclaration des droits, je vais terminer ce sujet avec l'apostrophe énergique de M. de Lafayette. Puisse ce grand monument élevé à la liberté servir de leçon à l'oppresseur et d'exemple à l'opprimé. Mélange. Afin de ne point interrompre le sujet dans la partie précédente de cet ouvrage, j'ai réservé quelques observations pour former un chapitre de mélange. Et par ce moyen, la variété ne saurait être accusée de confusion. L'ouvrage de M. Burke n'est qu'un mélange depuis le commencement jusqu'à la fin. Son intention était d'attaquer la Révolution française, mais au lieu de s'avancer en ordre, il l'a assaillie par une populace d'idées qui sont tombées les unes sur les autres et se sont entre-détruites. Il est aisé de rendre compte de la confusion et de la contradiction qui existent dans le livre de M. Burke. Quand un homme, dans une longue cause, veut régler sa course par toute autre chose que par quelque vérité ou quelque principe évident, il est sûr de se perdre. Il ne peut tenir ensemble toutes les parties d'un argument et les faire aboutir à une issue qu'en ayant toujours cette boussole sous les yeux. Ni la mémoire ni l'invention ne sauraient en tenir lieu. La première lui manque et la dernière le trahit. Malgré le galimatia, car cela ne mérite pas d'autre nom, que M. Burke a débité touchant les droits héréditaires et la succession héréditaire, et les assertions qu'une nation n'avait pas le droit de se former un gouvernement, il lui est arrivé par hasard de donner quelque idée de ce qu'est un gouvernement. « Un gouvernement, dit-il, est une composition de sagesse humaine. » En admettant qu'un gouvernement soit une composition de sagesse humaine, il s'ensuit nécessairement que la succession héréditaire et les droits héréditaires, comme on veut bien les appeler, n'en sauraient faire partie, parce qu'il est impossible de rendre la sagesse héréditaire. Et d'un autre côté, ce n'est point une composition bien sage qui, dans son opération, peut confier le gouvernement d'une nation à la sagesse d'un imbécile. La position que prend ici M. Burke est fatale à toutes les parties de sa cause. L'argument passe des droits héréditaires à la sagesse héréditaire, et la question est, qui est l'homme le plus sage? Il faut à présent qu'il montre que chaque individu, dans la ligne d'une succession héréditaire, était un Salomon, où son titre ne vaut rien pour être roi. Quel coup vient de faire M. Burke? Pour me servir d'une phrase de Marin, il a fauberté le pont et à peine laissé un nom lisible dans la liste des rois. Et il a fauché la chambre des pairs avec une faux aussi formidable que celle du temps et de la mort. Mais il semble que M. Burke ait prévu cette réplique. Et il a pris soin de se mettre en garde en faisant un gouvernement non seulement une composition de sagesse humaine, mais un monopole de sagesse. Il met la nation, qu'il regarde comme les fous, d'un côté, et son gouvernement de sagesse, de l'autre. Et il proclame que les hommes ont droit à ce que la sagesse supplée à leurs besoins. Ayant ainsi fait sa proclamation, il leur explique ensuite quels sont leurs besoins et quels sont leurs droits. Dans cet endroit-ci, il n'a certainement pas été maladroit, car il rend leurs besoins un manque de sagesse. Mais comme cela n'est pas fort consolant, il les informe qu'ils ont droit, non pas à aucune partie de la sagesse de cette composition, mais d'être gouvernés par elle. Et afin de leur inspirer une révérence solennelle pour ce gouvernement monopole de sagesse, et pour sa vaste capacité pour tous les cas possibles ou impossibles, bons ou mauvais, il continue, avec l'importance mystérieuse d'un astrologue, à les informer de ses pouvoirs en ces termes. Les droits de l'homme dans un gouvernement sont leurs avantages, et ces avantages consistent souvent dans un balancement entre des biens différents, quelquefois en un compromis entre le bien et le mal, quelquefois entre le mal et le mal. La raison politique est un principe calculateur. Ajoutant, soustrayant, multipliant et divisant moralement, et non pas métaphysiquement ou mathématiquement, les vraies démonstrations morales. Comme l'audience ébahie à laquelle M. Burke croit parler n'entend peut-être pas tout ce savant jargon, je vais entreprendre d'être son interprète. La signification de tout cela, mes bonnes gens, c'est qu'un gouvernement n'est gouverné par aucun principe quelconque, qu'il peut rendre mauvais ce qui est bon ou bon ce qui est mauvais selon son caprice. En un mot, qu'un gouvernement est le pouvoir arbitraire. Mais M. Burke a oublié quelque chose. D'abord, il n'a pas montré d'où venait originairement cette sagesse? Et, secondement, il n'a pas fait connaître par quelle autorité elle a commencé à agir. De la manière dont il traite cette matière, c'est ou le gouvernement qui vole la sagesse, ou la sagesse qui vole le gouvernement. Il est sans origine, et son pouvoir sans autorité. En un mot, c'est une usurpation. Soit par honte, ou par la conviction de quelque défaut radical dans un gouvernement, qu'il est nécessaire de dérober à la vue, ou pour ces deux raisons, ou pour quelque autre cause que je n'entreprends pas de déterminer, il arrive toujours qu'un raisonneur monarchique ne remonte jamais à la source d'un gouvernement. C'est un des shibboleths par où on peut le connaître. Dans 1000 ans d'ici, ceux qui vivront en Amérique ou en France remonteront avec la fierté de la contemplation à l'origine de leur gouvernement, et diront « ce fut l'ouvrage de nos glorieux ancêtres ». Mais que peut faire un raisonneur monarchique? De quoi peut-il se vanter? Hélas, de rien. Un certain je ne sais quoi l'empêche de remonter à l'origine de son gouvernement, de peur que quelques mandrins ou quelques cartouches ne sortent de la longue obscurité du temps et ne disent « je suis l'origine ». Quelque peine que prit M. Burke il y a 2 ans au sujet du bill de la régence et de la succession héréditaire et quelques recherches qu'il fit pour trouver des exemples, il n'eut cependant pas la hardiesse de parler de Guillaume de Normandie et de dire « voici le premier de la liste, voici la source des honneurs, le fils d'une prostituée et le déprédateur de la nation anglaise ». Les opinions sur les gouvernements sont bien changées dans tous les pays et continuent de changer avec une rapidité incroyable. Les révolutions d'Amérique et de France ont jeté un rayon de lumière dans le monde qui est parvenu jusqu'à l'homme. Les dépenses excessives des gouvernements ont excité les hommes à réfléchir en les rendant sensibles. Et une fois que le voile commence à se déchirer, il n'est plus possible de le raccommoder. L'ignorance est d'une nature toute particulière. Une fois dissipée, il est impossible de la rétablir. Elle n'est précisément rien de positif, mais seulement un manque de connaissances. Et quoi qu'on puisse tenir l'homme dans l'ignorance, on ne saurait le faire redevenir ignorant. L'esprit, en découvrant la vérité, agit de la même manière qu'il agit par le canal des yeux pour découvrir les objets. Quand une fois un objet quelconque a été aperçu, il est impossible que l'esprit retourne au même point où il était avant de l'avoir vu. Ceux qui parlent d'une contre-révolution montrent combien peu ils connaissent la nature de l'homme. Il n'existe pas dans toute l'étendue des langues un arrangement de mots qui puisse exprimer les moyens d'effectuer une contre-révolution. Les moyens ne sauraient être qu'une privation de lumière. Et l'on n'a pas encore découvert la possibilité de faire désapprendre à l'homme ses connaissances, ou de faire rétrograder ses pensées. M. Burke travaille en vain à arrêter le progrès de la science. Et c'est d'autant plus mal de sa part que l'on est informé dans la cité d'une certaine affaire qui le fait soupçonner d'avoir une pension sous un nom supposé. Cela rend raison d'une étrange doctrine avancée dans son ouvrage qui, quoiqu'en apparence pointée contre la société de la Révolution, est réellement dirigée contre toute la nation. Le roi d'Angleterre, dit-il, tient sa couronne, car selon M. Burke, elle n'appartient pas à la nation, au mépris du choix de la société de la Révolution, dont les membres, collectivement ou individuellement, n'ont pas une simple voix pour l'élection d'un roi. Et les héritiers de Sa Majesté, chacun dans son temps et par ordre de succession, parviendront à la couronne avec le même mépris pour leur choix que Sa Majesté est parvenue à celle qu'elle porte aujourd'hui. Quant à ceux qui regardent la question de savoir qui est roi en Angleterre ou ailleurs, ou s'il y aura un roi, ou si le peuple choisira un chef des Cherokees, ou un hussard essois pour roi, cela ne m'inquiète aucunement. C'est l'affaire des Anglais. Mais quant à la doctrine, en tant qu'elle a rapport aux droits des hommes et des nations, elle est aussi abominable que tout ce que l'on a jamais pu prononcer de plus bas dans le pays le plus esclave de l'univers. Je ne saurais dire si, n'étant pas accoutumé à entendre prêcher un pareil despotisme, elle fait sur moi une plus forte impression que sur tout autre. Mais je suis certain que ces principes sont abominables. Ce n'est pas de la société de la Révolution dont M. Burke entend parler. C'est de la nation, dans son caractère originaire et dans son caractère représentant. Et il a eu soin de se faire comprendre en disant qu'elle n'avait pas une voix soit collectivement, soit individuellement. La société de la Révolution est composée de citoyens de toutes les classes et de membres des deux chambres du Parlement. Conséquemment, si aucun de ses membres n'a le droit d'une voix, personne n'en saurait avoir ni dans la nation ni dans le Parlement. Cela doit servir d'avertissement à tous les pays en leur faisant connaître combien il est dangereux d'importer chez eux des familles étrangères pour être roi. Il est vraiment curieux d'observer que, quoique le peuple anglais ait été dans l'habitude de traiter le sujet des rois, c'est toujours une famille étrangère de rois qui règne sur lui, et que, n'aimant pas les étrangers, il se trouve toujours gouverné par des étrangers. C'est aujourd'hui la maison de Brunswick, chef d'une des petites tribus d'Allemagne. Ça a toujours été la coutume des parlements d'Angleterre de régler ce que l'on appelle la succession. Supposant que la nation continuait dans la volonté d'annexer une branche monarchique à son gouvernement. Car sans cela, le Parlement n'aurait pas eu l'autorité d'envoyer en Hollande ou en Hanovre ou de donner un roi à la nation contre son gré. Et c'est étendre le pouvoir du Parlement jusqu'au dernier point sur ce sujet. Mais le droit de la nation embrasse tout le sujet, parce qu'elle ne peut changer la forme entière de son gouvernement. Le droit du Parlement n'est qu'un dépôt, un droit délégué, et cela par une très petite partie de la nation, car l'une de ses chambres n'a même ce caractère. Mais le droit de la nation est un droit originaire, aussi universel que celui d'accorder l'impôt. C'est la nation qui paye tout, et tout doit se conformer à sa volonté générale. Je me rappelle d'un discours fait dans ce que l'on appelle la chambre des pairs par le comte de Shelburne, et je crois que c'est du temps qu'il était ministre, qui peut s'appliquer à ce cas-ci. Je ne l'ai pas exactement présent à la mémoire, mais les paroles et la substance, autant que je puis m'en rappeler, étaient ce qui suit. Que la forme d'un gouvernement était une chose entièrement à la disposition de la nation dans tous les temps, que si elle voulait une forme monarchique, elle en avait le droit, que si ensuite elle voulait devenir république, elle en avait aussi le droit, et pouvait dire à un roi « Nous n'avons plus besoin de vos services ». Quand M. Burke dit « Les héritiers de Sa Majesté, chacun dans son temps et par ordre de succession, parviendront à la couronne avec le même mépris de leur choix que Sa Majesté est parvenue à celle qu'elle porte », c'est en dire trop, même au plus humble individu du pays, dont une partie du travail journalier sert à payer le million de sterling que la nation donne tous les ans à la personne qu'elle appelle roi. Un gouvernement insolent est le despotisme. Mais un gouvernement méprisant est encore pis, et payer le mépris, c'est un excès de l'esclavage. Cette forme de gouvernement vient d'Allemagne, et me fait souvenir de ce que me dit un soldat de Brunswick, fait prisonnier par les Américains dans la dernière guerre. « Ah, dit-il, l'Amérique est un charmant pays libre. Il vaut bien la peine qu'on combatte pour le défendre. J'en connais la différence par la connaissance que j'ai du mien. Dans mon pays, si le prince dit « mangez du foin », nous mangeons du foin. Dieu ait pitié de ce pays, dis-je en moi-même, soit l'Angleterre ou tout autre, dont la liberté est soumise à des principes allemands de gouvernement et à des princes de Brunswick. Comme M. Burke parle tantôt de l'Angleterre, tantôt de la France, et tantôt du monde entier et des gouvernements en général, il est difficile de répondre à son livre sans lui faire face sur le même terrain. Quoique les principes des gouvernements soient généraux, il est presque impossible, dans certains cas, de les séparer de l'idée de place et de circonstance, et cela est encore plus difficile quand on met les circonstances en place des arguments, ce qui arrive souvent à M. Burke. Dans la première partie de son livre, en s'adressant au peuple français, il dit « Aucune expérience ne nous a appris, voulant dire les Anglais, que par une autre méthode que celle de l'hérédité de la couronne, notre liberté put se perpétuer et rester sacrée comme notre droit héréditaire. » Je demande à M. Burke qui la lui enlèvera. M. de Lafayette, en parlant à la France, dit « Pour qu'une nation soit libre, il suffit qu'elle le veuille. » Mais M. Burke représente l'Angleterre comme manquant de capacité pour prendre soin d'elle-même et dit qu'il faut que sa liberté soit gardée par un roi qui la méprise. Si l'Angleterre en est venue à cet état d'avilissement, elle est prête à manger du foin, comme en Hanovre ou en Brunswick. Mais outre la folie de cette déclaration, il arrive que tous les faits sont contre M. Burke. Ce fut parce que le gouvernement était héréditaire que la liberté du peuple courut des dangers. Charles Ier et Jacques II sont des exemples de cette vérité. Cependant, aucun d'eux ne porta la présomption assez loin pour mépriser la nation. Comme il est quelquefois avantageux aux habitants d'un pays d'entendre ce qu'ont à dire à leur sujet ceux des autres pays, il est possible que le peuple français puisse tirer quelque chose de l'ouvrage de M. Burke et que le peuple anglais tire quelque chose des réponses qu'il occasionnera. Lorsque les nations se querellent sur la liberté, un vaste champ s'ouvre à la discussion. Les arguments commencent par le droit de guerre. Sans souffrir aucun des maux qu'elle occasionne, comme la science devient l'objet de la dispute, le parti des faits est celui qui remporte le prix de l'action. M. Burke parle de ce que l'on appelle une couronne héréditaire comme si c'était quelque production de la nature, ou comme si, semblable au temps, elle avait le pouvoir d'opérer non seulement d'une manière indépendante, mais en dépit même de l'homme, ou comme si c'était une chose ou un sujet universellement reconnu. Hélas, elle n'a aucune de ses propriétés, mais elle a des qualités tout à fait contraires. C'est une chose imaginaire dont la propriété est plus que douteuse et dont la légalité dans quelques années ne sera pas admise. Mais pour rendre ce sujet plus clair que ne peuvent le faire des expressions générales, il sera nécessaire de poser les différents points de vue sous lesquels ce qu'on appelle une couronne héréditaire, ou pour parler plus juste, une succession héréditaire au gouvernement d'une nation peut être considérée, qui sont d'abord le droit d'une famille particulière de s'établir elle-même, secondement le droit d'une nation d'établir une famille particulière. Quant au premier de ces points de vue, celui d'une famille s'établissant elle-même de sa propre autorité avec des pouvoirs héréditaires et indépendamment du consentement de la nation, tous les gens sensés conviendront que c'est le despotisme. Et ce serait insulter à leurs facultés intellectuelles que de vouloir le prouver. Quant au second, celui d'une nation établissant une famille particulière et lui accordant des pouvoirs héréditaires, il ne le présente pas comme le despotisme à la première vue. Mais si on réfléchit une seconde fois et que l'on porte cette réflexion jusqu'aux descendants de cette famille, on verra que la succession héréditaire devient, dans ses conséquences, le même despotisme sur les autres que l'on avait réprouvé pour soi. Elle tend à exclure le consentement des générations futures, et l'exclusion du consentement est le despotisme. Quand un homme en possession d'un gouvernement ou ceux qui doivent lui succéder diront à une nation « Je tiens ce pouvoir en dépit de vous », il n'importe sur quelle autorité il le fonde, ce n'est pas soulager mais aggraver la peine d'une personne dans l'esclavage et lui rappeler qu'elle a été vendue par ses parents. Et comme ce qui augmente l'atrocité d'un acte ne saurait servir à en prouver la légalité, on ne peut donner la succession héréditaire comme une chose légale. Pour arriver à une décision plus parfaite sur ce point, il sera à propos de considérer la génération qui entreprend d'établir une famille avec des pouvoirs héréditaires, séparément des générations qui doivent la suivre, et d'examiner aussi le caractère en vertu duquel la première génération agit par rapport aux générations futures. La nation qui choisit d'abord un homme et qui le place à la tête de son gouvernement, soit avec le titre de roi ou toute autre distinction quelconque, agit pour elle-même comme un être libre, que son choix soit bon ou qu'il soit mauvais. La personne ainsi placée n'est point héréditaire, mais choisie et nommée. Et la nation qui le choisit ne vit pas sous un gouvernement héréditaire, mais sous un gouvernement de son propre choix et de son propre établissement. Si la génération qui l'a élevé et la personne ainsi élevée vivaient éternellement, la succession ne serait jamais héréditaire, et conséquemment, la succession ne saurait avoir lieu que par la mort des premières parties. Comme donc la succession héréditaire n'est point applicable à la première génération, nous avons maintenant à considérer en quel caractère cette génération agit par rapport à la génération suivante et à toutes les générations futures. Elle prend un caractère auquel elle n'a ni droit ni titre. De législatrice, elle devient testatrice et prétend faire un testament qui opère après son décès pour léguer le gouvernement. Et elle tente non seulement de laisser, mais d'établir sur la génération future une nouvelle forme de gouvernement différente de celle sous laquelle elle vivait elle-même. Elle ne vivait pas elle-même, comme nous l'avons déjà observé, sous une forme héréditaire de gouvernement, mais sous un gouvernement choisi et établi par elle. et elle cherche, en vertu d'un testament qu'elle n'a pas l'autorité de faire, à ôter à la génération naissante et à toutes les générations futures les droits et le libre arbitre avec lesquels elle a elle-même agi. Mais outre ce droit que toute génération a d'agir collectivement comme testatrice, les objets auxquels elle applique son testament dans ce cas-ci sortent des limites de toutes les lois et de tous les testaments. Les droits de l'homme en société ne sont susceptibles ni d'être transférés ni d'être anéantis. Ils ne sont que transmissibles, et il n'est pas au pouvoir d'aucune génération d'en intercepter finalement la descente. Si la génération actuelle ou toute autre génération se trouve disposée à être esclave, cela ne diminue pas le droit de la génération future pour être libre. Les torts ne peuvent avoir de descente légale. Quand M. Burke veut soutenir que la nation anglaise, au temps de la Révolution de 1688, abdiqua ses droits de la manière la plus solennelle pour elle-même et pour toute sa postérité, il tient un langage qui ne mérite pas de réplique et qui ne peut qu'exciter le mépris pour ses principes prostitués ou la pitié pour son ignorance. Sous quelques jours que la succession héréditaire, comme provenant de la volonté et du testament de quelques générations antérieures, puisse paraître, c'est une absurdité. A ne saurait faire un testament pour prendre à B la propriété de B et la donner à C. C'est cependant la manière dont opère ce que l'on appelle une succession héréditaire par la loi. Une certaine génération antérieure fit un testament qui a dépouillé la génération naissante et toutes les générations futures de leurs droits pour transférer ces mêmes droits à une troisième personne qui se présente ensuite et leur dit, dans le style de M. Burke, qu'ils n'ont pas de droits, que leurs droits lui sont déjà légués et qu'elle gouvernera en dépit de leur volonté. De pareils principes et d'une pareille ignorance, délivrez-nous, Seigneur.